Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania et Bel Âge. Au programme, comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend. Des passe-temps qui nous font du bien. Et Sami Zayn, le Québécois au sommet de la WWE. Bonne écoute.
Comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend? Un texte de Pierre-Luc Racine, paru le 2 février 2023 dans Urbania. Saviez-vous que l'humaine moyenne sort son téléphone 52 fois par jour? Et ça, ce n'est qu'un calcul fait parmi les gens qui ont choisi de suivre leur temps d'écran. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé collectivement pour qu'on se rende là? Plusieurs dépendances sont considérées comme normales dans notre société. Le sucre et la caféine en font partie. En ce qui concerne notre téléphone, nous avons laissé des entreprises jouer dans notre tête comme toutes les substances qui nous rendent accros. Un grand nombre d'applications fonctionnent comme des machines à sous. Nos cerveaux sont constamment récompensés par un message texte d'une proche, par un nouvel abonné, une nouvelle abonnée, ou par un nouveau match sur un site de rencontre. Notre corps est également satisfait par tous ces événements, même si on s'entend qu'un message d'un proche, d'une proche, est plus important qu'un inconnu ayant pris 3 jours à nous répondre. Le pire dans tout ça, c'est que toutes les applications sont conçues pour qu'on y reste plus longtemps que prévu. On n'a qu'à penser à TikTok, qui nous envoie constamment des notifications difficiles à effacer. Ces micro-doses de dopamine font en sorte que nous voulons constamment en recevoir, et ce, même si elles ne sont pas vraiment satisfaisantes. Êtes-vous comme moi? À chaque fois qu'un réseau social est en panne, ma tête devient semi-obsédée à rattraper ce que je suis en train de manquer et je rafraîchis mon fil jusqu'à ce que ça revienne pour réaliser ensuite que rien ne se passe et que c'est pas si le fun que ça, les réseaux sociaux. Bref, c'est normal de sortir constamment son téléphone. Je ne suis pas ici pour shamer qui que ce soit, surtout quand cet appareil nous sert aussi d'outil de travail, mais voici quelques trucs pour tenter de le garder le plus possible dans nos poches. Le tenir loin de vous. Notre cerveau nous fait croire qu'on a besoin de notre fixe de téléphone, mais c'est faux. Ça vous est déjà arrivé de voir votre téléphone sur une table trop loin et de vous dire « Bon, ben tant pis, à ce moment précis, vous saviez que vous n'en aviez pas besoin ». Nous sommes pris et prises avec un mélange d'addiction et de compulsion. Une compulsion est déclenchée rapidement, mais avec du travail, on peut briser nos patterns. La méthode la plus simple pour ne plus penser à son téléphone est donc de le placer au loin. Par exemple, laissez-le dans l'entrée lorsque vous barrez votre porte. Vous allez réapprendre à vivre sans. Ne le chargez pas près de votre lit non plus. Comme le dit Esther Perel, une psychothérapeute spécialisée en relations humaines, à la fin d'un discours chez Google, « Pour combien d'entre vous, la dernière chose que vous touchez avant de vous endormir est votre téléphone? » Changez ça. D'ailleurs, une étude de 2016 de l'Université de Virginie a montré qu'une personne sur 10 a déjà consulté son téléphone durant une relation sexuelle. Je suis pas mal certain que ça a insulté les 9 autres personnes. S'imposer des obstacles. Dans la même veine, plusieurs options s'offrent à vous pour vous enlever le plaisir de le consulter. Par exemple, pensez à désactiver Touch ID, Face ID, et imposez-vous un mot de passe très long. Vous verrez qu'un petit changement du genre vous découragera de consulter votre appareil pour rien. Pour nuire à votre expérience technologique, vous pouvez aussi virer votre écran en noir et blanc. Ainsi, toutes les petites couleurs et autres choses ne fonctionneront plus pour vous. En plus, vous verrez que de lire des statues d'Éric Duhem en noir et blanc colle un peu trop bien avec l'époque de ses mentalités. Vous écoutez « Comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend », un texte de Pierre-Luc Racine paru le 2 février 2023 dans Urbania. Désactiver ses notifications. Pour moi, ça a été un gros game changer. Maintenant, il ne me reste que des notifications de messages textes, de courriels et de Messenger. Bon, OK, quelquefois d'Uber Eats aussi. Même ma messagerie d'Instagram ne vient pas me déranger durant ma journée. Il ne s'est jamais rien dit d'important en privé sur cette plateforme. Jamais. Ce n'est jamais arrivé qu'un président, qu'une présidente envoie des codes nucléaires en DM. Désactiver tout ça, ce n'est pas urgent. Et pendant que j'y pense, placez également votre téléphone en sourdine. Vous gossez tout le monde avec vos « ding » de notification. Faire de l'introspection. Pourquoi donc je fais ça? Ce n'est pas facile de creuser ses intentions quand elles sont devenues inconscientes avec le temps, mais à chaque fois que vos mains ont envie de s'emparer de votre téléphone, demandez-vous « qu'est-ce que je suis en train de faire? » En questionnant vos motivations, vous réaliserez souvent la vraie raison de le sortir. Par exemple, dans mon cas, je sais que je sors très rapidement mon téléphone dans une situation d'ennui profond. Si je suis attablé avec des gens ayant une conversation m'excluant ou dont le sujet me désintéresse profondément, mes mains fourmillent. Pour moi, une discussion sur les meilleurs matériaux de cuisine ne rivalisera jamais avec des pages farfelues de Wikipédia. Acheter une montre. J'ai réalisé qu'une des raisons de sortir mon téléphone était de regarder l'heure. J'ai aussi remarqué que je n'arrêtais jamais de regarder l'heure et que chaque fois, je faisais le tour de toutes mes applications favorites. Même que ça m'est arrivé souvent de devoir ressortir mon téléphone parce que j'avais oublié de regarder l'heure. L'objectif initial. Depuis que j'ai une Apple Watch, mon temps d'écran est réduit. Non seulement regarder l'heure est plus rapide, mais je peux aussi consulter mes nouveaux messages et remarquer que dans 95% des fois, le feu n'est pas pris et que ça peut attendre. Même pas besoin d'une montre nécessairement intelligente. Une montre très niaiseuse du Dollarama fera en masse la job. Utiliser une app. Si rien ne marche, on est rendu à l'étape de combattre le feu par le feu. Ma première suggestion serait l'application Freedom, qui vous permet de bloquer des applications ou des sites web durant certaines plages horaires. L'application Forest rend le tout ludique. Lorsqu'elle est ouverte, vous verrez un arbre grandir et ensuite une forêt, mais dès que vous la quittez, tout se détruit. Voilà! Ce sont des trucs que j'ai utilisés moi-même pour me sortir de ma compulsion de sortir sans arrêt mon portable de ma poche. Maintenant, si vous me voyez en public sur mon téléphone, vous saurez que c'est parce que je m'emmerde profondément. À l'aide, venez me divertir. C'était « Comment faire quand l'envie de scroller votre téléphone vous prend », un texte de Pierre-Luc Racine paru le 2 février 2023 dans Urbania.
Des passe-temps qui nous font du bien, un texte de Ève Martel, paru dans Bel Âge. Un cerveau occupé est un cerveau en santé. Voyons pourquoi nos loisirs nous aident à avoir un esprit vif et un moral haut. Lorsque je me concentre sur un de mes passe-temps préférés, comme la cuisine ou le soin de mes plantes, je me plonge dans un état d'esprit où la concentration nécessaire à mes tâches me procure du bien-être et une détente totale. Et quand j'adopte un nouveau loisir, mon cerveau se sent comme un carnet dans lequel on écrit pour la première fois les notes d'une chanson. Curieux et heureux d'être stimulé, il me dit merci en me donnant une bonne dose d'hormones du bonheur. Adopter et cultiver un loisir est une des meilleures façons de se détendre et de prendre un moment pour soi. Et il est très important de le faire. Investir son temps dans la pratique d'un hobby est un placement assuré de générer des dividendes de bien-être. Qu'elle soit sportive, artistique, manuelle ou créative, les activités qui nous animent nous procurent de la joie et, souvent, de la fierté. En développant aussi de nouveaux intérêts, nous aidons à garder notre niveau d'attention sain, à élargir notre cercle social et à nous sentir accomplis. Voici trois raisons d'adopter un nouveau loisir immédiatement ou de renouer avec une ancienne passion. Pour améliorer sa mémoire, stimuler plus souvent notre mémoire et notre dextérité mentale peut aider à ralentir la perte de certaines fonctions cognitives. Comme une voiture que nous laissons se réchauffer un peu en hiver, avant de prendre la route, le cerveau aime recevoir les petits stimulus liés à nos hobbies. Cette revitalisation l'aide à bien fonctionner devant des tâches plus complexes. Quelques idées à essayer: mots croisés, sudoku, casse-tête et romans policiers, en essayant de résoudre l'énigme. Ou on peut organiser une soirée quiz où chacun crée une catégorie de questions, un beau défi pour tous. Pour élargir son réseau, s'inscrire à un atelier d'artisanat ou à un rendez-vous hebdomadaire comme celui d'un club de marche permet de se faire de nouveaux amis. Ce bain d'humanité est vital pour réduire la sensation d'isolement qui nous rend parfois maussade ou mélancolique quand on habite seul. Les communautés virtuelles liées à un loisir peuvent aussi être riches en nouvelles connaissances. Par exemple, un passionné d'histoire pourra tisser des liens avec d'autres gens qui partagent cet intérêt via un groupe Facebook et même participer à des événements où il pourra rencontrer ses nouveaux amis via des activités thématiques. Pour décrocher un peu, adopter un nouveau passe-temps est à la fois stimulant et relaxant, en plus de nous sortir de notre routine. On peut ainsi libérer le stress accumulé et décrocher des tâches moins roses du quotidien. En apprivoisant une nouvelle activité manuelle ou sociale, nous développons aussi un sentiment d'accomplissement, une satisfaction du travail bien fait. Les nouveaux loisirs nous rappellent qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre, à créer, à partager. Alors, on met un hobby, nouveau ou ancien, à notre agenda cette semaine? Pour garder mon esprit vif, j'ouvre mes horizons, je stimule mes neurones, je sors de ma routine. C'était « Des passe-temps qui nous font du bien », un texte de Ève Martel, paru dans Bel Âge.
Sami Zayn, le Québécois au sommet de la WWE. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 17 février 2023 dans Urbania. Soyez honnête avec vous-même. À un moment de votre vie, vous avez lutté dans le salon de la famille familiale et sauté du coin du divan pour asséner une descente du coude à votre petit frère ou votre meilleur ami, tout en vous imaginant devant une foule en délire en train d'administrer le coup de grâce à Steve Austin, Triple H, Mankind, John Cena ou peu importe le champion WWE de votre époque. C'est ce que s'apprêtait à faire le Lavallois d'origine syrienne, Rami Sebaï, au Centre Bell le 18 février 2023. Pour vrai de vrai, là. Vous le connaissez, ou pas, sous le nom de Sami Zayn, le lutteur le plus hot présentement à la WWE. Pas le lutteur québécois le plus hot. Le lutteur le plus hot tout court. Pour certains et certaines, la lutte est un vaudeville grotesque qui cible les pauvres d'esprit. C'est une manière de voir les choses. Personnellement, je vois ça comme une discipline singulière qui requiert des talents athlétiques, pugilistiques, théâtraux et improvisationnels. C'est aussi demandant que de boxer, faire de la gymnastique et du rap freestyle en même temps. Ce n'est pas une histoire de lutte comme les autres. Sami Zayn est d'abord et avant tout l'homme qui vit le rêve de tous les petits gars de ma génération. Le fabuleux destin de Rami Sebaï. À l'époque, j'avais une émission de lutte au 1280 AM. Ça s'appelait « In the Ring avec Patty the Kid », me raconte au bout du fil Patrick Smart, un lutteur aguerri de la scène montréalaise qui vit aujourd'hui en Ontario. On avait un stagiaire à la station qui s'appelait Johnny, et Johnny m'a demandé de lui enseigner la lutte à lui et à sa gang d'amis. Ils étaient trois, Johnny, Steven et Rami. Patrick s'est donc mis à enseigner les rudiments du sport à trois ados dans une cour arrière à Vimont. Pas de ring, direct sur le gazon. C'était des gars que je n'avais pas vus depuis 3 ans, expliquait Zane lui-même au balado de Stone Cold Steve Austin, The Broken Skull Sessions. J'ai dû changer d'école à un moment donné à cause d'une histoire de zonage et j'ai perdu contact avec tous mes amis. 3 ans plus tard, je me fais rappeler, sorti de nulle part pour me faire demander « Tripes-tu encore sur la lutte? » C'est comme ça que tout a commencé pour moi. Pendant plusieurs semaines, Patrick a entraîné les 3 jeunes à prendre leur bump. C'est-à-dire apprendre à tomber correctement, sans se faire mal et pour maximiser l'effet dramatique aux yeux des spectateurs et spectatrices. C'est la base dans le monde de la lutte. Si les jeunes pouvaient apprendre à tomber sur le gazon, ils pourraient le faire partout. Pour lui, le talent et l'affinité de Rami pour le sport étaient inévitables. C'est difficile à expliquer. Il a très vite commencé à prendre ses bumps aussi bien que les pros. Il s'est aussi vite mis à bien faire les petites choses subtiles qui prennent d'habitude plusieurs années à faire comme il faut, comme prendre soin de son adversaire, par exemple. S'assurer qu'il ne se blesse pas quand on lutte avec. Ça paraît con, dit comme ça, mais c'est super important si tu veux avancer dans le milieu. Ça a pris 6 mois avant que Rami saute dans le ring. La première fois que je l'ai vu lutter, il avait remplacé quelqu'un à pied levé pour un événement de la promotion montréalaise International Wrestling Syndicate. Ça arrive tout le temps dans le monde de la lutte locale que du monde ne se pointe pas. C'est comme ça que les nouveaux ont leur chance, m'explique Andrew Stott, alias Shane Hawk, un ancien élève de Sami Zayn, aujourd'hui directeur exécutif de l'IWS. Ce soir-là, Rami a jobé pour se mettre un pied dans la porte et il est resté jobé par la suite. Les gars qui restent et qui acceptent de faire bien paraître les autres ont fini toujours par leur donner quelque chose. Jobé, ça veut dire perdre de façon convaincante, parce que oui, la lutte, c'est arrangé. Même ceux qui aiment ça le savent, afin de faire bien paraître l'adversaire. C'est l'équivalent dans le monde de la lutte du stagiaire qui fait les photocopies, le café et un travail pour lequel il n'est jamais crédité. Tout ce que je voulais, C'était un match, racontait Zane à Stone Cold. Si j'avais un match, je pouvais aller cogner à toutes les portes en disant que j'étais lutteur. C'est un peu ça qui s'est passé. Vous écoutez Sami Zayn, le Québécois au sommet de la WWE, un texte de Benoît Lelièvre paru le 17 février 2023 dans Urbania. De Vimont à Elimination Chamber. Bon, vous me direz que c'est cute comme histoire, mais que ça n'explique en rien le passage du gazon d'une cour arrière au plus prestigieux ring du métier. La percée des lutteurs québécois aux États-Unis, en tout cas pour notre génération, a commencé avec un lutteur nommé Sex Eddie. Il a participé à un événement nommé Tournament of Death de la compagnie Combat Zone Wrestling et il s'est blessé très sérieusement contre, ironiquement, un autre lutteur de Montréal nommé The Arsenal. Il s'est coupé une artère et s'est mis à boire son propre sang sur le ring. Disons que ça a laissé un souvenir et attiré l'attention vers les gars d'ici, me raconte Andrew Stott. D'ailleurs, si vous souhaitez voir le match en question, il est disponible sur YouTube. Andrew ne rigolait pas du tout à propos de la sévérité de la blessure de Sexy Eddie. Âme sensible, s'abstenir. Zane et son meilleur ami Kevin Owens, lui aussi aujourd'hui lutteur en vue à la WWE, commencent donc à s'exiler chez nos voisins du Sud et font immédiatement tourner les têtes avec la petite promotion pennsylvanienne, mais aussi partout ailleurs sur le circuit indépendant. Pro Guerrilla Wrestling, Ring of Honor, tout le monde se les arrache. Ils remportent les titres de champion par équipe et le prix du match de l'année dans presque toutes les promotions qui choisissent de leur donner une chance. Ils deviennent aussi rivaux et captivent toutes les audiences qui leur prêtent attention. Combattant à l'époque avec un masque et sous le nom de El Generico, Zane est parti lutter autour du monde pendant quelques années, notamment avec la compagnie japonaise DDT, qui organise un événement annuel notoire sur un terrain de camping. Ce n'est qu'en 2013, soit plus de 11 ans après le début de sa carrière de lutteur professionnel, qu'il signera avec NXT, la plateforme de développement de la WWE basée en Floride. Ça a été un long processus, affirme son ami James McGee, lui-même promoteur de lutte à Montréal. Il t'arrive pas avec un contrat du jour au lendemain. Il faut que tu aies fait tes preuves, mais il faut que tu sois proactif et que tu le démontres aussi. Ces gens-là doivent savoir que tu existes. Ça a commencé en 2012, mais ça n'a pas été officiel avant la fin de l'année. Il n'a pas fait ses débuts avant l'hiver suivant. Après une décennie à prendre des risques, vivre dans ses valises et ne pas recevoir le dixième de tout l'amour qu'il voue au métier, Rémi Sebaille, alias Stevie McFly, alias El Generico, devient officiellement Sami Zayn et fait ses débuts avec la WWE. Oui, mais pourquoi lui et pourquoi maintenant? C'est une bonne question. La hiérarchie du monde de la lutte fonctionne beaucoup avec l'amour de la foule, alors qu'a-t-elle trouvé de si spécial en Sami? Le niveau ahurissant de succès que récolte Sami Zayn aujourd'hui est dû à plusieurs facteurs. Il est tout d'abord extrêmement talentueux et surtout unique. Alors que la plupart des lutteurs s'époumonent au micro et jouent à s'envoyer des invectives de mauvais goût, Zayn, lui, dégage un mélange d'intensité et de vulnérabilité qui le rend immédiatement sympathique auprès de la foule. Même pas besoin de comprendre l'anglais pour se laisser gagner par son travail. Tout se passe dans le ton de voix et le langage du non-verbal. Les épaules voûtées, la lèvre inférieure tremblotante, la voix qui casse, mais le regard fougueux malgré tout. Il projette l'image parfaite du « underdog », ce lutteur qui doute de ses capacités, mais qui affronte néanmoins ses peurs avec courage. Surtout, il n'a pas l'air de jouer un personnage. Tout en lui semble vrai. Sami a toujours eu un don pour attirer la sympathie de la foule. Même à l'époque où jouait El Generico et il faisait juste crier « Olé » parce qu'il ne parle pas espagnol, il a toujours été capable de créer quelque chose qui résonne, témoigne Andrew Stott. Stott m'explique aussi que si le chemin de Sammy a été si long, c'est en partie parce qu'il a subi une blessure à l'épaule qui l'a gardé hors du ring pendant très longtemps. Le facteur blessure compte pour lui, mais aussi pour les autres, m'explique-t-il. Il y a eu beaucoup de gros noms qui se sont blessés en 2021 et 2022. Cody Rhodes, Randy Orton. Les organisateurs ont dû jongler un peu, et c'est comme ça que Sammy a eu sa chance. Je pense pas qu'ils avaient prévu que son histoire avec Roman Reigns allait décoller comme ça, mais c'est vraiment lui qui a saisi son opportunité. Au-delà des prouesses techniques, sa capacité à raconter une histoire et à convaincre un auditoire de l'authenticité de ses émotions le place dans une classe à part. Que vous trouviez la lutte ridicule ou non, un Québécois raconte présentement une histoire qui captive le public et déclenche les passions au niveau planétaire. Et ça, ça vaut la peine d'être célébré, non? Sami Zayn a navigué le monde complexe, disloqué et hyper compétitif de la lutte pendant 20 ans pour pouvoir nous divertir sur la plus grande plateforme dédiée à son sport. Et aujourd'hui, il a enfin réussi. C'était Sami Zayn, le Québécois au sommet de la WWE, un texte de Benoît Lelièvre, paru le 17 février 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zorkman à la présentation et au montage.